Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
Bonjour, nous sommes ensemble pour une nouvelle édition de l'émission On vous aide sur Radio Crésus. Deux heures d'entretien avec des personnes qui nous appellent, qui nous exposent leurs soucis. Nos amis juristes sont présents, ils sont prêts à répondre à toutes vos questions. Régis Alter, bonjour Régis.
Bonjour.
Et Thierry Edmond, bonjour Thierry.
Bonjour.
Qui nous avons encore un petit peu sa timidité à l'antenne, mais aujourd'hui on va l'entendre bien plus que d'habitude. Nous avons un premier appel, il s'agit de Barbara. Barbara, bonjour.
Bonjour.
Je vous propose de nous exposer votre cas. Je sais que vous êtes retraité, vous avez quelques soucis bancaires. N'hésitez pas à nous raconter tout cela et on va échanger avec vous par rapport aux solutions possibles. Régis et Thierry sont très attentifs.
Bien. Alors, j'ai préparé quelques papiers. Donc, ma retraite actuelle se chiffre à 1010,47 €. Et j'ai un loyer de 693 €.
Oui.
75. J'ai d'autres frais. Bon, on parle argent, hein, on est d'accord.
On va parler que de ça, oui, je crois. Oui.
Oh, bon, enfin, bon, non, mais il fait beau. On peut quand même le noter. C'est rare ces derniers temps. Donc, en gaz, j'ai un chauffage au gaz, d'accord. En gaz, j'ai 80. Je vous donne les chiffres précis parce que
oui.
Voilà. 95,93 €, en impôts 60 €, l'assurance généralie, donc une assurance complémentaire santé, appartement, etc., 95,42 €. Bon, Free, l'abonnement Free, c'est en principe 30 €, mais comme il y a toujours des dépassements, c'est plus ou moins 50, et l'électricité, 25. Voilà.
Oui.
Ça, ce sont mes frais, et voilà. Et alors, vous m'aviez demandé de voir un petit peu à la BNP ce qu'il y avait comme frais quand je faisais des dépassements bancaires. Et j'ai téléphoné ce matin, donc il se trouve que le mois dernier, j'ai eu 11 opérations débitrices. Et à chaque opération, il me retourne 8 € et des poussières. Ce qui fait qu'en un mois, je leur ai payé en frais 97 €.
Régis, c'est une première vraie question, ça. La question des frais bancaires. Est-ce qu'on peut déjà en parler éventuellement?
Quand je fais des chèques en
oui.
bois.
Oui.
Alors, c'est vrai que la question des frais bancaires, elle vous mettez sur le tapis un vrai problème. Hein. Parce qu'on voit d'après vos revenus, hein, votre retraite qui dépasse à peine les 1 000 € et un loyer qui est près des 700 € et tous les frais qui s'ajoutent, vous avez déjà peu de reste à vivre, on va dire. Hein.
Ah oui,
Et vous avez en plus les frais bancaires qui s'accumulent. À hauteur, là, vous avez dit de 97 €, ce qui représente pratiquement 10% de votre retraite mensuelle, hein, sur un mois.
Oui, c'est vrai.
Et ça veut dire que sur un an, eh bien, vous êtes amené, finalement, si on fait le calcul, si c'est chaque mois pareil, à payer pendant un mois, à laisser votre retraite, un mois de votre retraite à votre banque, rien qu'en frais.
Eh ben d'accord.
Ce qui est énorme. Et donc, là, il faut vraiment se poser la question, comment éviter ces frais, sachant qu'aujourd'hui, les établissements bancaires ont l'obligation de produire une grille tarifaire et notamment présenter les 10 tarifs. Il y a un moyen de comparer, en fait, hein, puisque cette grille, elle doit permettre de comparer les frais d'une banque à l'autre. Et il faudrait peut-être trouver une solution pour, justement, éviter que vous n'ayez à payer ces frais pour les incidents que vous avez sur votre compte, hein, ou les dépassements.
C'est sûr.
Voilà. Alors, c'est vrai que ça, c'est risqué, les frais bancaires, parce que ça déséquilibre votre budget. Et au final, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez peut-être puiser dans votre découvert bancaire. Est-ce que c'est le cas ou pas pour,
Qu'est-ce que vous appelez puiser dans un découvert?
Eh bien, c'est-à-dire que vous avez normalement une autorisation de...
Ah oui, j'ai une autorisation de 500 € par mois sur 15 jours.
Voilà, donc semaines. Ça, c'est le découvert.
Et après, ces 2 semaines, les frais entrent en compte, quoi.
Voilà, donc en gros, la banque vous accorde effectivement une forme de crédit, hein. C'est ça. Voilà, donc vous n'avez pas... il vous manque de l'argent, vous avez le droit de puiser dans ces 500 €. Hein, dans ce crédit-là. Et finalement, vous faites quoi? Ben, vous payez les frais de banque avec. Donc, vous voyez un peu le système, hein, comment ça fonctionne. Hein.
Mm-hmm.
Donc, c'est tout bénef pour la banque. Et vous payez en plus des intérêts sur, à un moment donné, lorsque vous allez dépasser cette autorisation de découvert, vous allez payer des agios qui sont considérables. en pourcentage, hein, ça tourne autour de 15, 16, 17%.
Alors, donc, pour chaque opération, le gars que j'ai eu ce matin au téléphone m'a dit 8,9%.
Voilà.
Enfin, bon, j'ai rien compris de toute manière.
Alors ça dépend.
C'est lui qui a fait des calculs.
Voilà, donc il peut y avoir effectivement, ça peut tourner aux alentours de 9-10% dans le cadre du découvert autorisé. Mais une fois que vous le dépassez, ce découvert autorisé, il y a une majoration des taux d'intérêt. Hein.
Ah oui.
Donc ça, il faut aussi vérifier ça dans vos conditions contractuelles. Mais il est clair que, je dirais, vu votre budget qui est relativement contraint, serré, il faut trouver vraiment il faut se plonger dans l'étude de votre situation pour éviter ces frais hein, qui vous sont totalement défavorables. Hein. Oui. Alors, est-ce que ça a une incidence après, je veux dire, vous avez un découvert autorisé. Est-ce que ce découvert, vous le dépassez de temps en temps ou est-ce que vous arrivez à le combler ?
Régulièrement, tous les mois.
D'accord. Et vous le dépassez de quoi ? De 10%
Ça dépend. Ouais. Bon, là, on est le 13. Si je n'ai pas de rentrée d'argent rapide, je vais devoir, pour faire mes courses, faire ce que j'appelle un chèque en bois, quoi.
D'accord. Donc là, vous allez faire un chèque, en fait. Vous allez créer
un chèque et je sais très bien que pour que la banque l'honore, parce qu'ils l'honorent maintenant. Avant, ils les refusaient. Mais non, mais c'est tout bénef pour eux puisque ils me mettent des frais là-dessus.
Ben oui.
Donc en fait, c'est la quadrature du cercle. Hein.
Voilà. Donc il y a une situation qui est maintenue, hein, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre qui est trouvé, qui est favorable à la banque, on va dire. Hein. Elle vous accorde effectivement cette autorisation de découvert. Et par ailleurs, elle vous maintient un peu dans cette situation. Et effectivement, prend tous les frais dont on a parlé. Alors, sur les dépenses au quotidien, là, vous dites que effectivement, vous produisez votre propre argent. D'une certaine manière, vous faites des chèques sans avoir de provision sur votre compte. C'est ça ?
Ça m'arrive.
Voilà. Donc c'est une opération qui peut être risquée. Hein. Parce que si effectivement vous éditez plusieurs chèques qui ne sont pas honorés, vous pouvez être interdit bancaire.
Ah oui, ça m'est arrivé deux fois ça dans ma vie.
Voilà, donc ça c'est effectivement le risque.
Retour d'Angleterre et retour du Portugal.
Voilà, bon ben voilà.
Parce qu'à l'époque il n'y avait pas l'euro et je ne comprenais rien aux choses.
Oui, bon, alors ça fait il y a quelques années alors, ça fait plus de 10 ans.
Oui,
voilà.
Oui, oui.
Il y a plus de 10 ans. Mais voilà, donc ça c'est aussi le risque, avec tous les frais aussi qui sont attachés au rejet des chèques. Hein. Donc ces frais peuvent aller jusqu'à 50 euros aujourd'hui. Hein, donc ça rajoute, je dirais, à la difficulté budgétaire.
Ouais.
Donc ça, il faut être prudent par rapport à ça. Alors est-ce que ça a des incidences après, je dirais, parce que on l'a vu, d'emblée vous nous avez donné les chiffres entre votre retraite et vos charges. Est-ce que ça a une incidence aujourd'hui, ces frais de banque, sur le paiement, je dirais, des charges courantes ou même du loyer ? Est-ce qu'il y a des... Par ailleurs, est-ce qu'il y a
des... Ah non, parce que tout se fait automatiquement. Ah non, le loyer, j'ai arrêté. Je le paye par chèque, mais tout le reste, ce sont des virements bancaires automatiques.
Voilà. Et c'est pour ces types de virements que vous avez à un moment donné des incidents et pour lesquels on vous taxe 8,90 € par opération.
Voilà.
C'est ça.
Voilà.
Voilà. Alors après, il y a des méthodes pour éviter ça. Je dirais que si vous avez effectivement un risque d'impayé, à ce moment-là, il faut faire un choix aussi. Peut-être éviter les virements automatiques et gérer vraiment au plus près les paiements. Alors soit par mandat, hein, mais ça a un coût aussi, hein, mandat cash. Vous pouvez peut-être aussi payer en espèces à un moment donné si c'est pas trop loin. Je veux dire si le créancier n'est pas trop loin, c'est pas toujours très facile. Hein, mais il y a des manières d'éviter effectivement ces frais. Hein. Après, il faut voir votre situation vraiment.
Vous parlez de paiement en espèces, encore faut-il en avoir des espèces.
On est bien d'accord. Vous avez tout à fait raison, il faut avoir effectivement suffisamment de liquidités. Hein. mais c'est vrai que dans les recommandations que nous faisons, nous, à Crésus, à un moment donné, quand il y a une situation budgétaire qui est contrainte, on incite les gens effectivement à prendre en début de mois effectivement une certaine somme en espèces et de se tenir à cette somme.
Oui, par exemple, les impôts, je peux aller leur payer, c'est juste en face.
Ben voilà.
L'électricité, c'est pas loin de chez moi non plus.
Voilà.
C'est des idées que je n'avais pas.
Et voilà, et vous gardez la maîtrise, je dirais, de la date de paiement, évidemment, dans les délais qui sont à respecter. Mais là, vous n'avez pas, du coup, les frais que vous impose la banque. Alors, autre chose, et ça peut-être que Maître Edmond pourra vous en parler, on peut effectivement aussi aussi solliciter de la banque des remises gracieuses. Hein.
Voilà. Donc effectivement, il est possible, si vous avez de bonnes relations avec votre conseiller. Est-ce que c'est le cas déjà? Est-ce que vous entendez bien avec votre conseiller bancaire?
Je ne sais plus qui c'est mon conseiller, parce que ça change tout le temps. Il paraît que c'est un certain Haussmann maintenant.
Oui.
Que j'ai jamais vu. Mais je savais pas. C'est quoi une remise gracieuse?
Alors,
un joli nom.
Donc, vous allez avec votre plus beau sourire voir votre conseiller bancaire. Vous lui faites état de votre situation. Il y a combien de temps que vous êtes dans votre banque, madame?
Depuis toujours.
Ah ben voilà. Donc, vous faites jouer votre fidélité.
C'était la BNP.
Voilà, il faut que la fidélité soit récompensée quand même de temps en temps. Donc, vous y allez et vous lui faites état donc de votre situation en lui demandant de bien vouloir, si possible, procéder à une remise gracieuse concernant donc les frais qui vous sont infligés. Donc, c'est moins 8 euros que vous avez à chaque fois. Enfin, c'est 8 euros que vous avez à chaque fois sur les opérations débitrices. Et ça, vous pouvez le faire. Rien ne vous empêche de le faire. Hein. Donc, même si lui ne peut pas décider directement, mais au moins il peut prendre votre demande en considération, en référer plus haut pour ensuite vous donner une réponse positive. C'est tout à fait possible et n'hésitez pas à le faire. D'autant plus que vous êtes une cliente, certes qui avait quelques difficultés, mais qui, malgré tout, est fidèle et malgré tout une bonne payeuse. D'accord?
D'accord.
Ça, c'est possible. N'hésitez pas à le faire. Hein. Et vous ramener les justificatifs. Mais bon,
c'est un bon conseil.
Comme ils connaissent votre situation financière, donc c'est faisable.
Et j'ai envie de dire, entretenez une relation à votre banquier. Hein. D'abord, il faut l'identifier, puisque vous me dites que vous ne le connaissez pas. Peut-être l'aviser hein, d'un certain nombre de chèques qui vont être émis. Je sais qu'il y a la possibilité de le faire par mail. Je sais qu'ils apprécient ce genre de relation. L'aviser régulièrement.
C'est pas mon truc.
Alors, l'appeler. Je pense qu'il faut l'appeler. Je ne sais pas si Régis confirme tout cela.
Oui,
mais
tout à fait. Entretenez
une relation à votre banquier. Avisez-le, appelez-le, prévenez-le, effectivement, d'un certain nombre de situations qui se retrouvent difficiles pour vous. Il pourra, lui, anticiper, éventuellement éviter un certain nombre d'incidents. Je sais d'expérience. Et effectivement, après, avec le plus beau sourire qu'évoquait M. Edmond, lui demander, effectivement, ses remises gracieuses. Il y a des possibilités par rapport à ça. En tout cas, établissez la relation à votre banquier.
D'accord, c'est une bonne idée.
Bien, Barbara, alors est-ce qu'il y a d'autres questionnements ou est-ce qu'on a répondu globalement à vos attentes par rapport à ces relations avec votre banque?
J'avoue que le fait de savoir que je peux lui demander une remise gracieuse avec un beau sourire, ça m'arrange.
Oui, ben, il ne faut pas hésiter à demander. Hein.
De nouveaux horizons, on va dire. Hein.
Et voilà, donc c'est un geste commercial que peut vous accorder votre banque. Hein. N'hésitez pas à le demander. D'autant plus que si vous faites le total des frais engagés depuis un certain nombre d'années, vous pourrez avoir un argument de poids, je pense. Hein. D'accord?
Absolument. Mais vous savez, en tout cas, quand on téléphone au stand, enfin, la truc, je ne sais pas où, ils n'arrivent pas à remonter. Un jour, je voulais un renseignement pour 2 mois en arrière.
Oui.
Eh bien, ils n'arrivent pas à remonter plus que 30 jours.
D'accord.
Ben,
ça, c'est...
Ah non, mais les ordinateurs, c'est génial, hein.
Ah ben, disons que ça, ils ont leurs limites.
Avant, il suffisait de sortir un dossier papier, on fait des additions, et puis boum, on avait... Mais là, ils sont... Mais je vous jure, un jour, je me suis vraiment foutu en colère. Hein.
Eh oui, non, mais bon, voilà...
un renseignement pour le mois précédent. Ah ben non, on peut remonter que jusqu'à 30 jours. Ah bon, d'accord.
Oui. Bon, des fois, c'est aussi une façon de pas répondre aussi aux clients. Hein. C'est un argument qui peut être fallacieux.
Quand on est en face d'un conseiller bancaire, s'il me raconte des trucs pareils, je lui dirais, écoutez, sortez vos trucs papier.
Voilà.
Et qu'on fasse un peu le point autrement que sur 30 jours. Ça ne me sert à rien, 30 jours.
Exactement. Voilà.
Je peux le faire toute seule.
Alors, Barbara, si vous aviez un conseil ou des recommandations à donner à nos auditeurs... Qu'est-ce que vous leur diriez?
Je vais leur dire un truc. Ne faites pas de chèque en bois, ça coûte très cher.
D'accord.
Très bon conseil.
On enregistre le message.
Merci beaucoup, Barbara, pour votre témoignage.
Mais je vous en prie, ça m'a fait plaisir.
Et
en plus, merci pour vos conseils.
Merci bien.
À très bientôt, au revoir.
À très bientôt, au revoir.
Crésus, la radio qui vous aide. Crésus, la radio qui vous aide.
Nous avons un nouvel entretien avec Marie. Marie, vous êtes là?
Je suis là.
Oui, bonjour Marie.
Bonjour.
Je vous propose d'exposer votre cas en détail. Nous sommes à l'écoute et nous réagissons et répondons à vos questions spontanément.
Voilà. Alors, simplement pour vous dire que je suis retraitée. J'ai exploité pendant une quarantaine d'années un établissement dans une région où nous côtoyons beaucoup, beaucoup de monde. Nous étions des gens publics. Nous avons vendu notre affaire à un tout petit prix et uniquement un fonds de commerce qui nous rapportait un petit loyer. Et en tant que commerçant, nous avions une toute petite retraite. Et malheureusement, notre repreneur est en liquidation judiciaire et nous ne percevons plus aucun loyer. Et nous vivons avec cette toute petite retraite depuis 8 mois.
Oui.
Et nous sommes confrontés aujourd'hui à des problèmes d'impayés, genre les impôts ou une banque qui nous réclame un petit prêt qui courait et nous ne pouvons plus faire face. J'ai frappé à toutes les portes, toutes celles qui pouvaient éventuellement m'aider. Aucune n'a pu faire quoi que ce soit la banque, les impôts... l'assistante sociale, la caisse d'allocation familiale, j'ai prévu tout le monde et j'ai fini par Crésus. Voilà, Crésus a été de bon conseil et maintenant j'attends une réponse à mon problème parce que eh bien, je ne pensais pas qu'en arrivant à la retraite, je pouvais un jour être dans cette situation. Et c'est plutôt du désespoir et pas de la honte, mais une perte de dignité. Et on se cache, nous n'avons plus de vie sociale et c'est difficile. Voilà, donc victime avant tout et pas du tout coupable.
Oui Marie, Régis Alter à l'antenne, bonjour. Alors c'est vrai, vous nous exposiez effectivement votre activité pendant 40 années.
Pendant 40 années, oui. Nous avons exploité un hôtel-restaurant qui venait des parents de mon époux. Mmh. Et pendant 40 années, j'ai été son conjoint collaborateur. Ça veut dire que, vous savez, dans la fin des années 60, début des années 70, il n'était pas de coutume de faire des sociétés et de déclarer la petite épouse qui travaillait à côté de son mari.
Oui.
Donc ça a été déjà la première erreur de notre vie.
Oui, enfin, en fait, les choses évoluent un peu aujourd'hui, mais c'est vrai que encore beaucoup de personnes sont dans votre situation. Hein.
Oui.
Et c'est vrai que le conjoint collaborateur est souvent laissé pour compte...
Oui.
Dans la vie, dans l'avenir, hein, je dirais, surtout pas après pour la question de la retraite, notamment.
Oui, mais il n'est absolument pas reconnu, ça c'est sûr.
Tout à fait.
Et lorsque vous vous adressez à des personnes qui pourraient éventuellement vous dire que faire, ils vous disent non, vous n'avez rien à faire. Vous n'êtes pas considéré comme un travailleur, vous n'avez jamais travaillé.
Oui, et du coup, ça a des incidences après, effectivement, sur votre retraite et les pensions, puisque vous ne touchez quasiment rien.
Bah écoutez, je vais vous dire combien nous touchons, c'est pas compliqué, c'est pour deux personnes, nous touchons 750 euros par mois.
Voilà.
Ce qui était évidemment pas trop compliqué lorsque nous avions un loyer qui rentrait. Avec ça, on pouvait se débrouiller. Maintenant, c'est terminé.
Oui, et c'est vrai qu'à l'écoute de cette somme, on se rend bien compte de toutes les difficultés que vous devez rencontrer aujourd'hui pour assumer vos charges.
Oui. Hein. Oui.
Alors c'est vrai que dans votre malchance... C'est le repreneur de votre fonds de commerce qui n'est plus en capacité de payer ses obligations, en fait, hein, le loyer, c'est ça, hein.
Bah, disons que le repreneur, lui, a disparu de la circulation et mm-hmm. notre affaire est aux mains d'un liquidateur judiciaire, hein, d'un mandataire judiciaire, avec qui nous n'avons absolument aucun dialogue possible. En plus, il n'a malheureusement pas fait son travail comme il aurait dû, puisque vous avez connu les 15 jours d'hiver que nous avons eu début février, et il a laissé notre bâtiment de 1200 m² partir en déconfiture. Tout est cassé. Tout est cassé. Ça veut dire qu'un bâtiment que nous aurions pu vendre à un prix qui a été fixé par les domaines, par exemple, puisque nous l'avons, c'est officiel, eh bien, la valeur de notre bâtiment de 1200 m² a diminué de moitié. Et c'était notre retraite. Elle était là, notre retraite.
D'accord. Alors, voilà. Peut-être la question, peut-être Maître Edmond va vous parler de la question.
Oui, une petite question. Quand vous dites que les relations avec le liquidateur ne sont pas bonnes, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez préciser un peu ?
Écoutez, j'ai demandé, mais vraiment avec beaucoup de courtoisie, je me suis rapprochée de lui à l'époque où l'hiver commençait à être un peu, voilà.
Mm-hmm.
Et j'ai dit, écoutez, notre affaire est de loin pas terminée, mais j'aimerais quand même vous mettre en garde qu'il faudrait impérativement sauvegarder notre immeuble. Nous aurons après, à l'issue de l'affaire, nous aurons des acquéreurs, c'est sûr, mais pour les murs, excusez-moi. Et il a toujours refusé de me donner les clés. Nous lui avons proposé d'aller vidanger les radiateurs, d'aller préserver la chaudière, etc. Il a refusé de nous donner ses clés. Nous avions des visites pour la vente. Il a refusé de nous donner les clés. Et aujourd'hui encore, nous n'avons toujours pas les clés.
Et ça, sans raison particulière.
Sans raison. Mmh. Tout simplement parce que si je pense que sa raison est simple, c'est qu'à l'intérieur, il y a du matériel qui appartenait au fonds de commerce. Excusez-moi, mais je vais quand même ouvrir une toute petite parenthèse, maître. Je voulais simplement vous dire que lorsque nous avons vendu ce petit fonds de commerce à un tout petit prix, le notaire et le l'acquéreur ont demandé que nous remettions aux normes 2012 pour que monsieur puisse... voilà, donc toute la somme que nous avons reçue au moment de la vente a été investi dans la remise aux normes. Donc il avait un outil de travail extraordinaire. Donc j'en reviens au mandataire judiciaire à qui je fais des courriers et il ne répond pas. Je fais des courriers recommandés. Mais je vous en prie, donnez-moi les clés, on a des choses à voir. Non, ne vous donnerai pas les clés. Mais il ne répond pas au courrier. Je téléphone, il ne me répond pas à mes appels.
Alors c'est bizarre, donc il y aura peut-être l'éventualité, il y a l'éventualité de contacter directement le juge commissaire.
Alors, nous nous sommes rendus au tribunal compétent, donc qui avait prononcé la liquidation judiciaire de notre locataire, et nous avons été reçus, ça a été, je crois, de toute cette histoire, ça a été donc le greffier du tribunal qui nous a reçus avec beaucoup, beaucoup de gentillesse, et qui nous a dit, écoutez, oui, c'est sûr que c'est compliqué, je vais faire un courrier au liquidateur. Ce qu'il a fait, ça n'a rien changé.
Rien du tout.
Ça n'a rien changé du tout.
Moi, je pense qu'il faut carrément saisir le juge commissaire directement.
Oui.
Directement.
Oui, on a un petit peu peur de tout ça. On a l'impression que ce sont des gens qui peuvent nous faire du mal après. Hein, parce que quand on la tête en avant, on nous la coupe vite. Hein.
C'est pas du tout normal que ça se passe comme ça. Hein. Et d'autant plus que c'est le juge commissaire qui est chargé, si vous voulez, de la direction des opérations. Donc, quand quelque chose se passe mal, c'est normalement au juge de se mettre directement en contact avec le liquidateur afin de faire la lumière justement sur les éventuels problèmes de gestion des biens de la liquidation. Et comme là, manifestement, il y a de sacrés problèmes, je vous invite à voir directement le juge commissaire.
Hein. Le juge commissaire directement, du tribunal qui a été nommé.
Voilà, oui,
d'accord,
tout à fait.
Mais écoutez,
mon avis. Hein,
en attendant, ben, la vie reste compliquée. Voilà, c'est simplement pour dire aussi que on pense pas qu'un jour ça peut nous arriver. Vous savez, comme toutes les choses, toutes les mauvaises choses, ça n'arrive toujours qu'aux autres. Quoi. Ouais. Et ben là, on est tombé de très très haut. Mmh. C'est bien difficile. Voilà, quoi. Et on ne mange pas à sa faim tous les jours, ça vous le comprenez, on paye un loyer.
Ah, c'est sûr, avec 750 € par mois.
On est à moins 600 € par mois pour le moment. Oui. C'est-à-dire qu'on les sort, mais on ne les a pas.
Oui.
Enfin, on les a, on a encore les toutes petites réserves que nous avions, et là, dans 3 mois, c'est fini. Si notre affaire n'est pas réglée dans 3 mois, je ne sais pas ce qu'on va devenir.
Alors, vous évoquiez les portes qui se fermaient, notamment de la banque, hein, qui ne vous soutient plus. Considérant votre situation. Alors, généralement, ce qui se passe, c'est que dans ce genre de situation que vous vivez, on essaie de faire jouer à la fois le réseau familial et le réseau amical.
Oui.
Alors, est-ce qu'en l'occurrence, pour vous, est-ce que ces réseaux fonctionnent? Est-ce que...
Alors, le seul réseau qui a fonctionné chez nous, c'est le réseau amical.
Mmh.
Voilà. Pour la bonne raison que nous avons 2 enfants dont les emplois ne sont pas assurés pour le moment. Donc nous ne pouvons pas demander quoi que ce soit à nos enfants. Et puis j'estime de toute façon, excusez-moi, c'est peut-être un peu fier de ma part, mais j'estime que ce n'est pas un petit veau à donner à manger à sa petite maman de vache, quoi. C'est comme ça que j'appelle ça, moi.
Oui, c'est une vision.
Moi, je n'ai pas fait mes enfants. Mais les amis, ça a vraiment fonctionné. Moi, j'ai tous les jours des amis qui nous apportent à manger et qui nous ont aidés à payer l'assurance.
D'accord.
Voilà.
Voilà. Alors... Pour revenir sur les obligations des enfants, il faut savoir aussi à un moment donné, lorsque les parents sont effectivement dans la grande difficulté, les enfants peuvent être amenés à aider leurs parents, alors soit parce que c'est une obligation morale, ça c'est une chose, mais juridiquement aussi, il y a des possibilités. Hein.
Oui.
Donc la loi le prévoit. Hein, oui. Donc quand bien même vous disiez votre fierté, certes, mais la loi prévoit aussi des cas particuliers, hein, donc c'est possible. Hein. Alors le problème qui se pose effectivement pour vous, c'est cet isolement, hein, vous en parliez en début d'entretien. C'est vrai que c'est pas honteux, hein, je crois qu'il faut le dire, d'être dans une situation de difficulté financière. Je crois que l'idée, c'est qu'effectivement, ça peut arriver à n'importe qui, à un moment donné, hein, dans la vie. On n'est pas, la vie est longue et on n'est pas protégé. Hein, quand bien même, on le voit, là, vous avez eu 40 ans d'activité.
Oui.
On aurait pu penser qu'effectivement, à l'issue des 40 ans, vous puissiez bénéficier d'une retraite paisible.
Oui.
Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous êtes aujourd'hui amené à vous battre pour sauver les meubles, hein, d'une certaine manière. Hein, Et c'est un combat de tous les jours que vous devez mener, hein, puisque c'est un combat pour manger, On, oui. on est bien d'accord. Hein.
Pour vivre,
exactement. Oui. Et ce n'est pas évidemment le sort qu'on attend en fin de parcours professionnel. Hein.
C'est vrai.
Et on comprend très bien, je dirais, la souffrance que vous pouvez aujourd'hui vivre au sein de votre couple. Hein.
Oui.
Et c'est vrai que cette souffrance, elle peut être perçue différemment à la fois par l'homme et par la femme. Hein. Et chacun réagit différemment. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut se serrer les coudes.
Il faut serrer les coudes, mais je dirais, monsieur, que quand même les hommes, sont nettement plus fragiles que les femmes.
Hein. C'est possible.
C'est perçu assez rapidement.
Oui, c'est possible. C'est vrai que les épouses ont une capacité à résister, je dirais, qui est peut-être plus grande. Hein. Et c'est vrai qu'il faut tenir tête. Hein. Surtout, il ne faut pas baisser la tête. Je crois que ça, c'est important. Hein.
Oui.
Comme vous parliez de dignité, il faut la garder jusqu'au bout. Et je crois que quand vous nous parlez de votre situation, Crésus en a été très sensible à ces difficultés que vous rencontrez. Et c'est vrai qu'on va faire en sorte de vous aider le plus qu'on puisse. Hein.
C'est très gentil.
Ça, c'est important. Je crois que, Maître Edmond, vous avez effectivement parlé des possibilités par rapport au juge commissaire. Il faudra vraiment s'orienter vers lui pour faire le clair sur la responsabilité et le rôle du mandataire dans cette affaire. Hein.
Oui.
Et puis, n'hésitez pas à nous solliciter pour d'autres difficultés. Hein.
Absolument. C'est gentil à vous.
Voilà, Marie. Si vous aviez...
Merci beaucoup.
Je vous en prie. Et si vous aviez un mot pour terminer cet entretien pour nos auditeurs.
Alors, je crois qu'il y a une chose qu'il faut bien se dire. On voit maintenant, on va parler pas, le mot crise est sur toutes les lèvres depuis maintenant 4 ans. C'est vrai, on le sait, on est en plein dedans, etc. Donc mon histoire n'est pas banale, mais elle n'est pas non plus isolée. Donc je crois qu'il faut absolument dire à vos auditeurs, à partir du moment où on voit arriver le problème, il ne faut surtout pas faire l'autruche, surtout pas. Parce que plus on attend et plus on s'enlise. Donc ça c'est important, il faut parler. Alors frapper aux bonnes portes, ça c'est sûr, mais il ne faut jamais jouer à l'autruche, jamais. Oui. Il faut tout de suite en parler.
Tout à fait, Marie. Merci beaucoup pour ces derniers conseils. Hein. Surtout, il faut réagir, hein. je crois que c'est le mot d'ordre.
Oui.
Et ne pas se laisser envahir, je dirais, par...
Et ne pas se laisser impressionner.
Exactement, tout à fait.
Voilà.
Merci beaucoup, Marie.
C'est moi qui vous remercie.
À très bientôt.
À bientôt, bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.
Crésus. Crésus, la radio qui vous aide. Crésus. Crésus, la radio qui vous aide.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Crésus, l'émission On vous aide, en présence de Régis Alter et de Maître Edmond. Nous avons Henri en ligne. Henri, est-ce que vous m'entendez ?
Oui, bonjour.
Oui, vous m'entendez, oui. N'hésitez pas à parler bien fort près du...
Je vous entends très mal, là.
D'accord, on va affiner les choses. Vous m'entendez bien, là ?
Non.
Oh. Alors, je crois que c'est un problème de téléphone. N'hésitez pas à rapprocher le combiné. Et... Vous m'entendez mieux ?
Oui, ça peut aller, mais c'est pas génial.
D'accord. N'hésitez pas à exposer votre situation. Je crois qu'il y a une situation de surendettement suite à la perte de votre emploi. Je crois que c'est cela.
Voilà, tout à fait. Donc, j'ai perdu mon emploi en avril 2010.
Oui.
Suite à un licenciement économique d'une société allemande qui était basée dans la région de Mulhouse.
Oui.
Suite à ça, 2 mois après, mon épouse est tombée malade d'un cancer.
Oui.
À l'époque, en 2008, nous avions donc contracté un crédit immobilier d'une société bancaire dans le nord de la France. Puisque quand j'avais fait la demande à ma propre banque ici sur le secteur du Haut-Rhin, on m'a refusé le crédit compte tenu du fait qu'on était déjà relativement, enfin d'après ce qu'il disait, on était relativement avancé dans l'âge, donc le crédit a été refusé. Ce qui fait que la somme initiale que j'avais décidé d'emprunter au départ avec mon épouse, on a été obligé de la revoir à la hausse compte tenu du fait que nous avons été obligés de prendre un courtier financier pour nous trouver une banque ailleurs. Et ce courtier nous l'a trouvé effectivement quelques jours plus tard dans le nord de la France.
Oui.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2008, donc, les travaux ont commencé, tout allait bien. Nous avons donc commencé à rembourser nos traites mensuelles. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'à l'époque, la traite mensuelle faisait à peu près 45% de nos deux salaires qui rentraient régulièrement. dans les charges qui étaient mensualisées tous les mois, c'est-à-dire taxes d'habitation, taxes foncières, impôts sur le revenu, tout ce qu'il faut pour vivre tous les jours sans taper dans l'excès. Également les études de mes deux filles, donc qui allaient à l'époque étaient déjà dans l'une était déjà dans les études supérieures et l'autre allait rentrer dans le secondaire.
Oui.
Bon, toujours est-il que tout ça a bien marché jusqu'à donc fin avril 2010 où j'ai été licencié économique. Mon épouse 2 mois après est tombée malade. Heureusement qu'à l'époque nous avions contracté donc une assurance de tête sur le crédit immobilier, qui a pris le relais à compter de septembre 2010 jusqu'à décembre 2011, où on a été prévenu par courrier comme quoi ils allaient arrêter de prendre la relève du paiement des traites mensuelles, compte tenu du fait que mon épouse avait été examinée quelques jours avant, donc à la date du 13 décembre 2011, par un médecin expert de la compagnie d'assurance qui lui a jugé utile que malgré sa maladie et son intervention chirurgicale en 2010, pouvait reprendre le travail à partir du 14 décembre, donc juste le lendemain après qu'elle a passé chez lui.
Voilà. D'accord.
Ça c'est en gros l'histoire qui nous est arrivée. Et puis bon, donc à l'heure actuelle, donc comme moi j'ai vu au mois de décembre qu'on ne pouvait plus assurer à compter du mois de février les traites mensuelles compte tenu du fait que l'assurance nous a lâchés, j'ai immédiatement prévenu donc la société bancaire basée dans l'Aube, avec un gros dossier à l'appui et dossier bétonné vraiment de A à Z avec tous les éléments qu'il y avait dedans qu'il fallait pour vraiment essayer de se sortir de ce mauvais pas. Et au départ, cette société n'a pas donné suite à ce dossier car quand ils m'ont appelé la première fois pour savoir comment ça se fait que la traite du mois de février n'était pas couverte, je leur avais répondu que le dossier était pas, que j'avais envoyé un dossier au mois de janvier. Ils m'ont dit ah ben, on l'a jamais eu, il a dû se perdre dans les couloirs.
D'accord. Alors Henri, si, juste pour résumer, hein, si on a bien compris, donc vous avez effectivement acheté un bien immobilier en 2008,
oui.
Avec un coût supérieur à ce que vous aviez prévu parce que vous avez dû passer par un courtier.
Bah, oui,
ouais, c'est ça. Donc ça, c'était déjà des dépenses qui n'étaient pas spécialement prévues. Ensuite, pendant deux ans, ça se passe sans difficulté.
Voilà.
Avec un taux d'effort quand même qui est de 45% par rapport à vos ressources. Hein.
Voilà, exactement.
Voilà. Oui. Donc ce qui dépasse le taux classique accepté par les banques, hein, puisqu'on est plutôt aux alentours.
Non. Oui. Non, parce que dans cette mensualité, il y avait donc la mensualité de la maison.
Oui.
Et en même temps encore une assurance de tête. Donc je peux vous le dire, on tourne à peu près au niveau traite mensuelle, assurance, donc crédit immobilier plus maison, il y avait 1 350 € qui sortaient tous les mois.
D'accord. Et vous restez combien finalement pour vivre par mois?
En gros, il me restait encore une fois à peu près...
Un peu plus que la même chose.
1 500 €.
Voilà, 1 500.
Pour faire le reste, quoi.
D'accord. Et là, je dirais que c'était vous arriviez à vous en sortir avec ces sommes-là. Hein.
Bah, plus ou moins, oui.
D'accord. Et donc, effectivement, licenciement économique...
Oui.
Plus maladie de votre épouse.
Oui.
Et là, vous avez vos ressources qui dégringolent.
Bah là, oui, forcément, puisque...
On est bien d'accord.
Quand vous passez l'indemnité journalière, vous perdez 50% de votre revenu. Hein.
Voilà. Donc, il y a effectivement cette baisse de ressources. Heureusement, l'assurance prend le relais pendant un certain temps.
Oui.
Donc ça, elle a bien joué.
Oui.
Mais malheureusement, je dirais que le médecin conseil de l'assurance, à un moment donné, a estimé que votre épouse ne pouvait plus bénéficier de... cette garantie, étant donné que son état de santé, selon lui, ne le permettait plus.
Voilà.
C'est ça. Hein.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, mon épouse est toujours encore en arrêt maladie longue durée, appuyée par la caisse primaire d'assurance maladie. Hein.
D'accord. Alors, l'assurance, donc vous avez effectivement, je pense, essayé de contrecarrer cette décision initiale au niveau du...
Oui, tout à fait. Donc, nous avons lancé une contre-expertise parce qu'on leur a fait comprendre qu'on n'était pas d'accord sur
Bien
le
sûr.
Principe de la première expertise. Et quand ils nous ont répondu par courrier, comme quoi, effectivement, si on veut, il n'y aura pas de souci. Eux, ils engagent une contre-expertise, mais sachant que au niveau de la contre-expertise, le médecin qui examinera mon épouse une deuxième fois sera le même comme celui-là qu'il a examiné à la date du 13 décembre, ce qui est totalement illégal.
Oui. Alors face à cette situation-là, qu'est-ce que vous avez décidé ensuite de faire?
Ben, compte tenu du fait que au mois de février, la compagnie bancaire a commencé à me poser des questions par téléphone, et puis donc j'ai été secoué un peu par téléphone, mais qu'est-ce que vous faites? Mais
oui.
Il faut rembourser, vous savez ce qui arrive quand vous ne remboursez pas,
oui.
Vous ne donnez même pas d'acompte. Donc c'est à partir de là que je me suis dirigé sur le Crésus.
D'accord. Et donc pour avoir des réponses justement et savoir, alors il y a peut-être un point sur l'assurance qu'il faudra éclaircir, hein.
Bah oui, parfait.
Parce que là, vous n'êtes pas allé au bout du bout, hein. Alors peut-être que Maître Edmond pourra nous apporter quelques éclairages, hein, sur le manière de procéder.
Oui, bonjour Henri. Donc effectivement, ce que vous avez décrit concernant l'assurance, c'est proprement scandaleux, puisqu'a priori tout est vraiment mis en œuvre, hein, pour que l'on ne reconnaisse pas les droits de votre femme et que l'on ne reconnaisse pas surtout son véritable état de santé, pour qu'au final, l'assurance ne continue plus à payer les traites comme elle devrait le faire. Fait. Ce que vous nous avez dit sur la contre-expertise qui aurait été faite par le même médecin est totalement anormal.
Bah oui.
Ah oui. Et c'est sur ce point-là qu'il faudra effectivement aussi se focaliser pour faire en sorte que la contre-expertise ne soit pas faite par ce même médecin, mais par un médecin indépendant, pas par un médecin qui dépende de l'assurance, évidemment.
Par contre, je tiens juste à rajouter un point en ce qui concerne donc cette fameuse assurance. Il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, les traites mensuelles de l'assurance sont toujours encore prélevées. Hein.
Oui.
Oui, mais tant mieux, il faut continuer à assurer le paiement des primes, hein,
oui,
pour éviter qu'effectivement il y ait une déchéance au niveau de l'assurance, hein, qu'on vous, et que le contrat ne fonctionne plus. Donc continuez effectivement à assurer ce paiement. D'un autre côté, il faudrait effectivement sérieusement se poser la question pour engager une procédure au niveau de l'assurance.
Oui.
Hein, pour faire reconnaître de façon judiciaire, s'il le faut même, eh bien que la garantie doit s'appliquer. D'accord ?
D'accord.
Et parallèlement, peut-être, introduire une demande de délai de grâce, hein, de délai de paiement, pardon, auprès du tribunal d'instance, hein, pour le paiement des mensualités actuellement, en arguant qu'effectivement, vous engagez une procédure contre l'assureur, et qu'au final, finalement, les délais de paiement devraient vous permettre d'attendre, hein, de mettre en stand-by la situation, le temps qu'on y voit clair par rapport à cette assurance. Hein.
Mais de toute façon, le délai de la demande de délai pour geler les primes, les,
oui,
traites mensuelles, c'est prévu. Il y aura un moratoire au tribunal de ma région lundi là à 14h.
Donc vous avez déjà introduit la demande.
Oui, oui, oui.
Voilà. Alors ce qui serait important de dire, hein, parce que je dirais que les moratoires, les délais ne sont accordés qu'à condition qu'il y ait espoir de retour à meilleure fortune. Hein.
Oui.
Parce que si la situation est totalement grevée, je veux dire, il n'y a aucun intérêt à accorder un délai de paiement. Hein.
Oui.
Donc il faudra bien expliquer que vous allez engager une procédure contre l'assurance. Pour justement mettre en œuvre cette garantie. Parce que pour vous, ce n'est pas normal que cette garantie ait été levée. Vous, hein, voyez ? Et donc, à ces conditions-là, le juge pourrait être effectivement attentif et vous accorder ces délais, hein, qui peuvent aller jusqu'à 24 mois, ce qui peut être la durée d'une procédure si elle est menée rondement. Hein. Il ne faudra pas tarder, hein, parce que c'est vrai que il peut y avoir effectivement des procédures, une procédure en appel après, si le jugement est défavorable à l'assurance, elle pourrait contester, ça pourrait durer un peu plus longtemps que prévu. Hein. Mais donc il ne faut pas tarder là, hein, je pense. Hein.
D'accord.
D'accord ?
Ok.
Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Tout est clair ?
Non, pour l'instant c'est clair.
C'est clair. Bah, écoutez, bon courage, hein, pour la suite.
Ok, merci.
Henri, merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Crésus, la radio qui vous aide. Crésus, la radio qui vous aide.
Nous avons une nouvelle personne en ligne, il s'agit d'Alain. Alain, est-ce que vous m'entendez ?
Oui.
Oui, bonjour. Alain. Je crois que vous avez des soucis qui résultent d'un divorce qui remonte à loin, à 90, il me semble. N'hésitez pas à nous évoquer effectivement cette situation particulière.
Oui, ben voilà, donc c'est un divorce donc qui s'était relativement bien passé, il y a quelques années, donc... ayant refait ma vie avec une autre personne, construit une maison, tout ça, il y a des enfants.
Oui.
Mon ex-femme revient à la charge après quelques années pour me demander un arrêt de pension alimentaire qui est assez impressionnant puisque c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Et donc, du coup, voilà, après, bien sûr, quelques années de où c'était très bien passé, donc, ayant fait confiance, étant donné qu'on pour des très bien passés, bien entendu, sur les pensions et tout ça, il n'y avait pas de problème. Donc, du coup, c'était comme un accord de dire, bon, on suspend, puisque notre fille est en il n'y avait pas de problème.
Oui.
Et d'un coup, dû à une situation de sa part délicate ou difficile, ou je ne sais pas, décide de me redemander une pension alimentaire astronomique.
Alors vous avez parlé d'un montant de combien,
parce qu'on a 12 000 euros.
12 000 euros, d'accord. Oui, ouais.
On a mal compris, oui.
C'est 12 000 euros, hein, c'est pas mal.
Ouais, c'est une belle somme déjà, oui.
C'est pas mal déjà. Ouais. Donc étant donné que les budgets étant très serrés actuellement, bien sûr, parce que bon, il y a la vie courante tous les jours avec une maison à payer et tout ça. Donc du coup, ça nous fait un peu, on se retrouve vraiment embêté. Étant donné que cette personne a commencé à sans avertir plus que ça, bloquer mes comptes. Donc bien sûr, ça nous met vraiment en sérieuse difficulté financière, on va dire, hein, parce que bloquer les comptes du jour au lendemain avec tout ce qui tout ce qui part en retrait automatique. Ça, 460 euros pour vivre, pour 4, ça fait un peu juste quand même.
Oui.
Hein, donc du coup, là, ça a commencé, quoi. Alors, les problèmes ont commencé, et voilà, ça s'enchaîne.
Alors, j'ai juste une question sur le montant, parce que c'est vrai que 12 000 euros, c'est conséquent, hein, ce qui est réclamé. Alors généralement, sauf si je me trompe, hein, Maître Edmond, mais est-ce qu'on ne peut pas remonter que 5 ans en arrière sur les paiements des arriérés de pension ou...
Voilà, justement, sur combien d'années elle est remontée?
Elle est remontée jusqu'en 2007.
2007, oui, donc c'est ça, on est sur les 5 ans. Hein. Donc,
on est sur les 5 ans, oui.
Voilà, oui, tout à fait. Donc sur la demande, elle semble effectivement fondée. A priori, est-ce qu'il y avait un jugement? Tout était en ordre. Hein, donc,
par rapport au jugement, effectivement, c'est une passion, donc c'est un truc dur. Mm-hmm. Effectivement, c'est normal, on va dire, c'est normal.
D'accord.
Le souci qui est moins normal, c'est qu'après tant d'années, elle me redemande tout ça, étant donné qu'on avait comme un accord.
D'accord. Donc cette pension qui est due pour votre enfant, et donc vous y disiez que votre enfant est aujourd'hui autonome, financièrement.
Depuis quelques années.
Oui, d'accord. Et cette pension était pour cet enfant?
Tout à fait.
D'accord. Et depuis quand?
Étant donné que toute la pension était virée sur son compte à elle, bien sûr, vous avez procuration, parce que c'est une pension alimentaire, donc la maman a forcément, bien sûr, un regard là-dessus. Mais bon, on s'était dit, bien sûr, que c'était aussi en partie pour elle, plus tard pour ses études, bien sûr. Hein. Mm-hmm. Elle fait des études un peu plus longues.
Oui.
Du coup, ça pose problème, parce qu'elle est partie à l'étranger en vidant le compte de sa fille.
La mère, ok.
Oui, oui. La mère.
Oui, oui.
Et du coup, c'est embêtant, quoi. Étant donné que, bon, après, elle me demande en plus des sous, elle vide le compte de sa fille qui, elle, comptait là-dessus pour continuer. Donc, du coup, moi, ça me fait double frais.
Oui.
Mais par rapport à ça, je veux dire que ce que je trouve un peu embêtant, c'est qu'on bloque les comptes d'une personne comme ça, hein, avec un huissier.
Donc, en l'occurrence, c'est vous.
Et puis voilà. Donc, effectivement, par rapport à la loi, elle peut le faire. Donc, c'est une pension alimentaire et que voilà.
Mais okay.
c'est un peu agressif comme solution.
Donc pour résumer, simplement, donc vous nous expliquez qu'effectivement, par rapport à cette somme qui vous a été réclamée, hein, c'est 12 000 euros, donc dans la mesure où vous ne les avez pas honorés, il y a eu une saisie qui a été faite. Alors c'était une saisie sur quoi? Auprès de votre employeur sur un compte bancaire?
Non, pas encore. Pas encore, là c'est uniquement blocage des comptes.
D'accord, donc saisie sur compte bancaire, d'accord.
Oui.
Donc il faut savoir que alors vous avez dû subir effectivement un blocage au niveau du fonctionnement du compte pendant quelques jours, hein. En principe, quand vous avez dû apprendre la saisie quand vous avez essayé d'utiliser le compte normalement, c'est ça?
Oui. Alors bien sûr, surprise, bien sûr, quand on a voulu
utiliser
de l'argent et des choses comme ça. Donc,
ça ne marchait plus.
Le banquier me dit, vous faites l'objet d'une saisie.
D'accord,
donc bien sûr, après ça, on s'est renseigné tout ça.
Et normalement, l'huissier vous a informé dans les 8 jours de la saisie, normalement. L'huissier nous a informé. Voilà.
Une fois que ça a été fait.
Oui, voilà. Mais c'est une condition. Il a un certain délai pour le faire. Hein.
Oui, tout à fait.
Voilà. Donc ça, c'est.
Oui, c'est très réglementé.
Tout à fait.
Même lui m'a dit, parce que bien sûr, j'étais le voir et tout ça. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est et tout ça.
Donc,
du coup, voilà. Et oui, c'est réglementé. Même au point de vue banquier, il m'a dit il faut qu'il retire à telle date.
Voilà, donc là.
Donc ça, c'est réglementé, il n'y a pas de souci. Les personnes ont fait leur travail, je veux dire, c'est tout à
d'accord.
fait normal.
Et on vous a laissé le solde bancaire insaisissable, hein, à condition que votre compte soit créditeur. On vous a laissé les 470 euros, grosso modo.
Les 465 euros.
Voilà. D'accord, donc ça c'est... Donc a priori, la saisie a été faite en bonne et due forme. Hein.
Oui, tout à fait.
Voilà.
La première, oui.
Mais les conséquences de cette saisie, après, sont désastreuses, effectivement, pour votre...
Bien sûr. Ouais. Parce que étant donné que, bien sûr, le budget étant tellement serré, actuellement,
oui.
que si vous manquez effectivement un mois de où il n'y a pas de salaire qui rentre, pas de rentrée d'argent...
Bien sûr.
Effectivement, avec tout ce qu'il y a à payer, il n'y a pas de marge de sécurité.
Oui.
Ce qui fait que tout de suite, ça part assez vite. C'est-à-dire que si vous pouvez pas honorer vos échéances, bien sûr, il y a la banque qui vient dessus, pour donc le crédit de maison, hein, pourquoi d'autre, pour le téléphone, par exemple, Internet, des choses comme ça.
Mais tous les virements,
sont retirés automatiquement.
Bien sûr.
Donc ça s'enchaîne. Donc la solution était de dire, je prends des avances sur salaire, comme ça.
Oui.
Je peux régler les choses.
Bien sûr.
Mais le souci, c'est en prenant des avances sur salaire, certains organismes n'acceptent pas de payer en liquide ou quoi que ce soit, puisque c'est déjà en système automatique.
Oui.
Donc ça pose problème. Et en plus, le deuxième problème qui se crée là-dessus, c'est que ce que vous avez enlevé du compte du salaire,
si on
ne va pas sur la banque.
Oui.
Et donc, bien sûr, ça continue, puisque la banque ne veut plus prélever les échéances. Donc, dans une certaine limite, vous pouvez prendre une chose pour vous aider au quotidien tout de suite.
Oui, c'est dans l'immédiat.
Mais ensuite, on vous retrouve le même problème, peut-être un pire, parce que du coup, vous ne pouvez plus honorer vos échéances automatiques, qui engendrent d'autres problèmes encore.
Oui, l'argent est mangé. Hein. Une fois qu'il est mangé, il n'y en a plus, on est bien d'accord.
Tout à fait.
Et donc, c'est que reculer.
Et là, ça s'enchaîne. Et une fois qu'on veut casser cette spirale, c'est difficile. Parce que, par exemple, ce qui m'est arrivé l'autre fois, c'est que plus d'Internet. Ils coupent Internet, donc plus de téléphone fixe et plus d'Internet. Bon, d'accord. Mais le problème, c'est que pour joindre l'opérateur, il faut téléphoner.
Oui.
Si je n'ai pas de téléphone, je ne peux pas arriver à régulariser.
D'accord.
Vous comprenez ?
Oui, donc c'est la théorie des dominos,
On ne peut pas les joindre autrement que par téléphone.
Tout à fait.
Par le net.
Oui.
Et si je n'ai plus, c'est difficile.
Oui, donc après, il faut aller voir quelqu'un qui puisse
vous
mettre à disposition.
On va voir bien sûr les agences en disant, voilà, l'agence nous dit, il faut composer le tel numéro. Composer tel numéro, ça ne marche pas. Donc après, c'est tout un exemple parmi d'autres.
Oui.
En voulant dire que le système est tellement fait, de sorte qu'une fois que vous êtes dans une spirale, pour en sortir, c'est extrêmement compliqué. Que ce soit pour les banques, les crédits immobiliers ou autres, c'est difficile. Parce qu'on est dans une spirale. Une fois qu'on est dans une spirale, pour en sortir, c'est assez impressionnant parce qu'il faut faire des pieds et des mains. Il faut même si on a les sous tout de suite pour régler les choses, c'est une chose. Ou bien si vous voulez renégocier les contrats pour justement alléger les choses ou dire on va trouver une solution pour aider,
oui.
C'est pas possible puisqu'il faut d'abord honorer ce que vous n'avez pas payé pour ensuite renégocier le contrat.
Oui. Alors c'est vrai que...
C'est un truc qui se mord la queue.
Bien sûr.
Hein, c'est le chat qui se mord la queue. C'est incroyable. Donc du coup, tout est fait pour, une fois que vous êtes embêté, vous avez des ennuis financiers,
oui.
Il est quasiment... Il n'y a rien qui est fait pour faciliter les arrangements.
C'est vraiment très compliqué pour s'en sortir.
Parce que tout le monde est tiraillé, tout le monde est serré de tous les côtés, donc bien sûr les banques, elles serrent aussi les boulons.
Bien sûr.
Alors que ça ne devrait peut-être pas être vraiment trop le cas, puisqu'on est quand même client chez eux. Et qui devrait quand même nous aider quelque part si on a une difficulté. Bien sûr, c'est pas à répétition, c'est une difficulté qui se produit puisque tout allait bien auparavant.
C'est ponctuel, hein, est bien d'accord.
On n'est pas des... Voilà, c'est...
Le problème pour vous...
Des personnes qui ont déjà des problèmes...
Oui, la difficulté pour vous, elle a été amplifiée par le fait qu'effectivement, vous aviez un budget qui était réglé, je dirais, qui était juste. Hein, ça passait tous les mois. Oui. Vous n'aviez pas, a priori, d'épargne de précaution suffisante pour faire face... à la saisie, parce que imaginons que vous ayez eu la somme, eh bien vous auriez pu accepter la saisie et vous seriez, au niveau du budget, resté dans les clous. Mais en l'occurrence, là, effectivement...
Oui, on aurait pu trouver un accord ou une négociation.
Oui. Bon, ça n'a pas été le cas, là. Il y a comme
ça
une...
pas été le cas, puisque c'est très difficile à joindre à la personne.
Voilà, là, c'était...
L'avocat qu'il avait pris, est assez...
Alors, il y a toujours possibilité de s'opposer à la saisie. Hein. Maintenant, c'est vrai que pour des créances alimentaires, les juges sont assez rigides hein, pour accorder, je dirais, une levée de la saisie. Oui, maintenant, il faut voir le
voilà, moi, excusez-moi de vous interrompre, oui. Mais par rapport à la levée de la saisie,
oui.
C'est en cours.
D'accord.
J'attends un jugement, là. Qui
donc, vous avez demandé une main levée.
Fin du mois, théoriquement, en principe, ça n'a pas été repoussé.
Oui.
C'est la troisième fois que c'est repoussé. Donc,
oui, mais bon, ça n'a plus d'intérêt, là, parce que là, c'est, en principe, la main levée, elle doit agir assez rapidement, hein, pour
oui,
enrayer,
tant
justement...
Que, tant que je n'ai pas de jugement, parce qu'il y a eu une deuxième saisie qui m'est tombée dessus, parce que, étant donné qu'on ne pouvait plus attraper sur les comptes,
oui.
On a décidé de saisir directement chez l'employeur.
D'accord.
Donc, j'ai une...
Une saisie sur rémunération.
Pas une saisie qui court pour l'instant, oui. Puisque ça a été repoussé, étant donné que le juge attend un jugement du tribunal.
Mm-hmm.
Pour savoir si il peut appliquer, s'il peut faire valoir la saisie sur salaire,
mmh.
pour l'instant, ou trouver un arrangement, parce qu'il me laisse toujours une porte ouverte, ce qui est bien.
Dans le cadre de la saisie sur rémunération, il y a normalement une phase amiable, hein, qui est ouverte.
Voilà, on est encore dans cette
ça,
phase amiable, on va dire.
C'est la procédure.
Tant
hein.
qu'il n'a pas eu le jugement définitif du tribunal.
Voilà. Alors, quoi qu'il en soit, actuellement, donc, vous avez plusieurs procédures qui sont en cours, si on comprend bien, c'est ça ?
Oui,
donc, vous n'êtes pas encore sorti de la spirale dont vous parliez ?
Non, pas du tout.
Pas du tout. Alors, comment
ça
vous
fait
faites aujourd'hui ?
Quatre mois que ça dure.
Voilà. Juste pour nous apporter un éclairage, comment vous faites aujourd'hui pour vous en sortir ?
Comment je fais ? Ben,
oui.
Je fais comme je peux.
Oui. Ben oui, mais...
Voilà. Non, je veux dire par là que, si je peux, j'ai été voir mon banquier.
Oui.
Qui, lui, m'a autorisé un petit découvert sur la carte.
Oui.
Mais pas suffisant, naturellement, juste pour survivre, on va dire.
Il a un peu d'huile dans les rouages, voilà. Oui.
Voilà, juste un tout petit peu, parce mm-hmm. que ça suffit quand même pas. Hein.
Bien
donc
sûr.
Du coup, on ne règle pas les factures.
Oui.
Parce qu'on ne peut pas les régler.
D'accord. Donc après, il faut prévenir les créanciers qui doivent patienter.
Il faut prévenir les créanciers. Et toi, les créanciers, bien sûr, eux, ils nous rappellent, ils n'attendent pas non plus
bien sûr.
Leur argent, ce qui est normal.
Mm-hmm.
Donc du coup, je dis, écoutez, je ne peux pas vous dire plus.
Bien sûr.
Ouais. Pas, donc ils patientent. Hein, ils patientent, ils font comme moi, ils essaient de patienter. Soit ils sont compréhensifs et ils laissent un petit peu couler en disant il faut le plus rapidement tenir moi au courant et autres, et puis essayer de faire le mieux, ce qui est le bien. Mais d'autres, ça ne marche pas comme ça. C'est
les contentieux. Oui. Il y en a qui sont effectivement qui passent au contentieux.
Ah ben oui, ça c'est contentieux, c'est direct. Là, tout ce qui est crédit immobilier, tout ça c'est contentieux. Donc ce qu'on est obligé, on est obligé de vendre.
Oui. Alors si vous
malheureusement,
avez... oui.
malheureusement, parce qu'on va être arrivé à ce niveau-là.
Pour le bien immobilier,
et,
oui.
On ne peut pas renégocier, et si on ne peut pas non plus honorer nos trucs, il faut être réaliste.
Oui, à un moment donné, il faudra se poser la question, est-ce qu'on vend le bien immobilier oui.
ça casse une famille, je veux dire, ça casse un couple, parce que ça casse tout.
Ouais.
Il y a une maison, il y a des travaux qui ont été faits, il y a des rêves qui essayent de se réaliser, il y a les enfants qui sont dessus.
Ouais.
Qui essaye aussi de voilà, on essaye de concrétiser une chose et d'un coup on peut plus rien faire parce que voilà, la vie fait que si on n'a pas d'essence pour aller travailler, pour mettre dans la voiture, on peut pas aller travailler.
Ben, ça marche plus. Hein. Alors Alain,
ça m'est arrivé une fois.
Oui.
Je suis resté à la maison, hein,
mm-hmm.
parce que du coup il fallait mettre de l'essence dans la voiture. J'ai dit mais là si j'y vais je peux en revenir, je tombe en panne. Qu'est-ce que je fais? Je reste à la maison.
Oui.
J'ai pris des jours de congé parce que je pouvais pas.
Oui. Alors Alain,
c'est con à dire, c'est bête à dire.
Non mais c'est
du pire, qu'est-ce qu'on prend le moins pire.
C'est la dure réalité.
C'est la dure réalité qui est là en fait, hein, qui est là. On sait que c'est dur, mais là on la prend encore plus dans la figure parce qu'on se dit mais je travaille tout le temps, je suis jamais absent.
Mm-hmm.
Ce truc, je gagne un salaire à peu près correct et pour une
ouais.
bêtise pareille parce
ouais.
qu'on est trop juste.
Ouais.
On est trop juste, on est très très vite dans les embarras, très vite dans les problèmes.
Oui. Alors Alain,
ce que je suis en train de voir, c'est que pour en sortir, c'est très compliqué.
Et ça prend du temps.
C'est compliqué.
Si vous aviez un message à passer à nos auditeurs pour résumer votre situation ou pour les avertir, pour les alerter, qu'est-ce que vous auriez à leur dire ?
De faire les choses tout de suite correctement.
Oui.
Disons que le plus correctement possible,
oui.
le plus justement possible, en se gardant toujours des...
Se protéger.
Une porte de sortie et
voilà.
Ne pas hésiter à faire appel à des organismes comme Crésus, par exemple, pour avoir des conseils.
Mm-hmm.
Parce que moi, chez vous, je vous ai demandé j'ai été voir parce que je ne savais plus quoi faire.
Oui.
Il me fallait que je sorte la tête du guidon pour
oui.
voir à peu près comment trouver une solution au problème.
D'accord.
Parce qu'au bout d'un moment, on se pose des questions en se disant, mais comment j'ai quelle est la solution. Il faut que je trouve, est-ce que je peux trouver une aide ou des renseignements ou une idée qui ne me serait pas venue à la tête,
oui,
de dire, mince, là, je pourrais essayer d'exploiter ce filon ou essayer de faire ça pour gagner du temps ou trouver une solution pour rééchelonner les choses. Voilà, hein, parce que tout le monde en pâtit. La compagne en pâtit, parce qu'elle, bien sûr, de son côté, si ça manque d'un côté, on va prendre chez la compagne, mm-hmm, ou chez le compagnon. Hein. Son salaire, son compte, bien sûr, descend aussi, parce qu'il est aussi juste. Mm-hmm. Donc du coup, tous les deux se retrouvent dans le même problème, dans un problème.
Voilà, et c'est...
Donc d'un coup, tous les deux en pâtissent.
Et on le disait, c'est la théorie des dominos.
Les comptes, ouais. Même si on n'a pas les comptes joints,
bien sûr,
même les comptes séparés,
mais vous êtes liés d'une certaine manière.
Bien sûr.
Alors Alain, pour terminer, on souhaitait vous remercier pour votre témoignage poignant, hein, qui vraiment nous a ouvert les yeux, je dirais, sur la réalité. À ne plus pouvoir aller au travail parce qu'on a plus d'essence, on ne peut plus payer d'essence aujourd'hui, c'est aussi ça la réalité. Hein. Et vraiment...
Oui, c'est aussi pour la nourriture, c'est la même chose.
Hein. Et voilà, on n'a pas parlé de la nourriture, mais on imagine effectivement
la nourriture, ça m'est arrivé la même chose. Hein.
Voilà. Oui. Et donc.
Ben oui, à la caisse, vous remplissez le caddie, vous dites bon, ça va passer, ça devrait passer, vous faites le truc, désolé, à la caisse, on dit.
Et on est mal.
Si, ouais. On appelle la banque.
Oui.
Bon, la banque, comme c'est l'alimentaire, ils ont laissé passer.
Oui.
Mais sinon, ils n'ont pas voulu laisser passer.
C'est.
Part, on se sent vraiment coincé par un système,
ouais,
où on est, même, on est absolument tributaire des banquiers, en fait, mm-hmm, de l'argent. Mm-hmm. De l'argent. Si on n'a pas d'argent,
on n'est rien.
Il y a des gens qui sont dans une situation pire que la mienne, parce que moi j'ai encore un travail, hein, voilà. Je comprends très bien les gens qui peuvent...
Et c'est pour ça que, justement, Crésus se bat contre l'exclusion financière, hein, parce qu'on sait toutes les conséquences que ça peut avoir dans la vie au quotidien.
Si tu es encore à la Banque de France, ça va. Une fois que vous êtes fiché, c'est encore pire.
Oui. Alors,
vous ne pouvez même pas aller voir une banque X ou Y ailleurs pour dire bon là.
Alors après, on peut discuter longuement sur les intérêts et les inconvénients du dépôt d'un dossier de surendettement. Hein. Je crois que ça fera l'objet effectivement peut-être d'une autre émission. En tous les cas, on voulait vous remercier Alain pour votre témoignage et on vous souhaite bon courage et surtout Crésus est avec vous, hein, donc n'hésitez pas. Hein. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Crésus, la radio qui vous aide. Crésus, la radio qui vous aide.
Nous avons Mickaël en ligne. Bonjour Mickaël.
Bonjour.
Je crois que vous avez eu des soucis assez rapidement, une situation de surendettement en quelques temps. Est-ce que vous pouvez nous évoquer votre situation en détail ?
Alors, oui, il y a quelques temps, ça remonte à 2-3 ans.
Oui.
J'ai dû contracter des crédits pour faire face à des situations qui s'aggravaient de mois en mois. Et
oui.
Puis donc, suite à une séparation et un déménagement, malheureusement, j'ai été obligé de recontracter des crédits pour essayer d'en rembourser un.
Oui.
Et puis on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, en fait, on n'arrive pas spécialement à rembourser exactement ce qu'on veut, puisque l'argent amène l'argent, hein, malheureusement. Ah. Et puis donc on tombe assez vite dans une spirale. En quelques mois, on est tombé dans une spirale où on arrive à un état où bon, j'étais en plus au chômage, donc avec. Avec le chômage qui est arrivé après et donc avec des charges qui des crédits mensuels qui arrivaient à la hauteur de ce que je percevais.
Alors Mickaël, ce que vous nous décrivez là, c'est ce qu'on connaît bien, je dirais ce phénomène à Crésus, hein, c'est ce qu'on appelle la cavalerie budgétaire, qui consiste finalement à prendre un crédit pour en rembourser un autre quand on se rend compte qu'on peut plus payer la mensualité.
Voilà, oui.
Et après, c'est un peu ça s'enchaîne, hein. On en prend un troisième, un quatrième, un cinquième, etc. Jusqu'à un moment où on se rend compte qu'effectivement, ce n'est pas la solution.
Alors voilà, ça s'enchaîne très vite. Alors je dirais qu'on se sent toujours fautif parce que de toute façon, on a toujours, c'est nous qui contractons, c'est nous qui faisons les démarches pour avoir de l'argent. Donc on peut se sentir fautif dans un, dans un côté, mais c'est facile aussi de rejeter la faute sur le système, mais est-ce que le système ne ferait pas mieux de faire un contrôle des crédits justement centralisé pour justement empêcher ce gouffre.
Voilà, alors vous nous tendez la perche là pour parler effectivement de ce qu'on défend depuis de longues années à Crésus, hein, c'est ce qu'on appelle le fichier positif ou un registre national des crédits aux particuliers, qui consiste effectivement à recenser chaque fois qu'on prend un crédit, ce crédit dans un fichier, et qui permettrait à l'établissement bancaire qu'on va voir pour un crédit de voir la liste de l'ensemble des crédits qu'on a souscrits.
Tout à fait, oui.
Et éviter effectivement la surconsommation de crédit telle qu'on la connaît aujourd'hui. Hein, je crois que c'est vraiment la problématique. Hein. Alors c'est vrai que le gouvernement, l'État n'est pas pour l'instant encore suffisamment engagé pour que ce fichier soit adopté, mais on se bat tous les jours à Crésus pour convaincre les députés, notamment de l'utiliser de ce fichier. Hein. Et pas seulement les députés, aussi les établissements bancaires qui peuvent être réticents à accepter ce type de fichier.
C'est justement l'un des thèmes étonnamment absents de la campagne présidentielle. On ne parle pas de surendettement. On parle surendettement de l'État, mais jamais des particuliers. Je ne sais pas si tu as un mot à dire par rapport à ça, Régis. Aujourd'hui, à quelques jours du premier tour. Hein.
Alors c'est vrai que Mickaël a dû se rendre compte qu'effectivement, là, sur les déclarations qui ont été faites par les différents candidats, on parle beaucoup effectivement du surendettement. Un candidat en a parlé clairement, mais de l'État, on est bien d'accord, et de toute la problématique, effectivement. Donc il n'y a pas que les particuliers qui sont concernés par la surconsommation, d'une certaine manière. Hein. Alors c'est vrai que c'est un autre ordre de grandeur pour l'État, mais en l'occurrence, je crois qu'il faut effectivement remettre de l'ordre dans tout ça, hein, parce que là, c'est une fuite en avant actuellement que nous connaissons, sous prétexte effectivement de faire fonctionner l'économie. Mais il y a un moment donné où effectivement ceux qui payent, c'est le peuple, hein, c'est les consommateurs, c'est les clients des banques qui sont amenés à payer les crédits plus les intérêts. Et sans parler de tous les frais annexes en cas d'impayé, hein, on a parlé tout à l'heure avec un autre témoin, hein, mais c'est une industrie, hein. Et donc, c'est vrai que c'est très difficile de faire passer, effectivement, ce fichier positif qui aurait pu vous éviter, effectivement, d'arriver peut-être à un endettement. Alors, vous n'avez pas parlé du montant que vous avez aujourd'hui au niveau de la dette que vous devez. C'est combien? C'est 10 000, 20 000, 30 000?
Alors, il va falloir multiplier par deux. Donc, je suis arrivé à une dette de 60 000 euros.
D'accord. Donc, 60 000 euros en crédit à la consommation.
En crédit à la consommation, tout à fait.
Voilà. Donc, c'est effectivement une somme importante à rembourser, hein. Ça fait quelques voitures aujourd'hui, hein, cette somme. Et c'est vrai que une des solutions, mais qui n'est pas toujours la meilleure, hein, c'est le dossier de surendettement. En l'occurrence, vous avez fait un dossier vous-même, c'est ça ?
J'ai fait un dossier moi-même, donc ouais. On me l'a conseillé en Banque de France. Eux-mêmes m'ont conseillé, oui, justement de faire ceci, puisque ma banque, ma banque principale, m'a déconseillé de le faire, évidemment.
Ben tiens.
Mais en Banque de France, je suis tombé sur un conseiller qui m'a vivement conseillé de le faire.
Oui.
Et donc, toutes les démarches sont, je dirais, un petit peu fastidieuses au départ, parce qu'il faut vraiment se plonger dedans et puis savoir aussi ce qu'on veut, hein, savoir s'en sortir et puis essayer de trouver une solution par rapport à ça, puisqu'à la base, ils ne sont pas là non plus pour nous assassiner, ils sont là aussi pour trouver des solutions.
Oui.
C'est vrai que c'est
un dossier complexe, hein, qui est lourd administrativement, puisqu'il y a tous les justificatifs à produire.
Alors ah après... oui, il y a beaucoup de justificatifs à produire, beaucoup. Bah, en fait, il faut tout garder, il faut tout recenser,
oui,
il faut retrouver exactement tous les montants, contacter les organismes, éventuellement si on a perdu tous les capitaux restants dus qu'on doit afficher. Voilà, c'est complexe.
Tout à fait. Alors, quelle a été la décision qui a été rendue, soit par la commission, soit par le juge, hein, s'il est intervenu?
Alors, la commission a décidé, avait planché sur un moratoire de 2 ans.
Oui.
Que des créanciers ont refusé. Un créancier avait refusé. Donc, à partir du moment où il y a un créancier qui refuse ce qui est proposé par la commission, évidemment, ça met un peu tout le dossier en balance.
Bah, c'est l'échec de la phase amiable, oui.
Voilà. Et ensuite, donc, le juge a tranché en ma faveur en acceptant justement un moratoire de 2 ans, un gel des dettes de 2 ans pour essayer de revenir un petit peu à la surface et surtout de retrouver un travail par la suite.
D'accord. Et ce gel des dettes, là, il est prévu jusqu'à quand ?
Et le gel des dettes, donc, il s'arrête mi-juin.
Mi-juin de cette année.
De cette année, tout à fait.
D'accord. Donc là, effectivement, vous êtes, on s'en rapproche, hein, tout doucement, oui, hein, de cette échéance.
Oui.
Donc c'est vrai qu'il faudra prendre attache avec la commission ou le secrétaire de la commission. Alors, est-ce que vous l'avez déjà fait pour voir à quel moment redéposer ou recontacter la commission, justement, pour faire un point sur votre situation actuelle?
Alors voilà, c'est ce qui est assez complexe aussi dans l'administration, c'est que je les ai contactés il y a 3-4 mois déjà, et je suis tombé sur deux personnes différentes, malheureusement, qui m'ont dit, bah écoutez, non, c'est à vous de refaire un dossier de surendettement.
Oui.
Bah écoutez, je leur ai dit que non, on allait m'envoyer juste une demande de renseignement pour savoir si ma situation évoluait, et ensuite que la commission allait se repencher sur le dossier pour décider de la suite à venir.
Mmh.
Donc, je suis enfin tombé il y a un mois sur une personne compétente.
Oui.
Et donc, qui m'a dit, non, vous inquiétez pas, au mois de mi-mai, à peu près, on vous fournira une demande de renseignement à remplir.
Mmh. Donc, voilà. Après, c'est vrai que au niveau des pratiques des commissions, il peut y avoir des variantes. C'est vrai qu'il y a différentes commissions dans chaque département, et les pratiques ne sont pas toujours homogènes, bien qu'il y ait une tendance à ce que tous puissent être traités de façon égalitaire, je dirais, de la même façon sur le territoire français. Hein.
Voilà.
Mais donc, effectivement, attendons de voir quelle sera votre situation dans quelques semaines, hein, pour faire le point. Et éventuellement, il faudra effectivement repasser par la commission pour savoir si un plan doit être mis en place. Hein.
Voilà, mais l'inconvénient, c'est le manque d'informations en Banque de France que l'on peut déplorer. C'est-à-dire qu'on se renseigne un petit peu, enfin, quand on est dans une situation comme ça, où on doit quasiment 1 200 € de crédit tous les mois.
Oui.
Où actuellement, j'ai entre 1 600 et 1 700 € par mois parce que j'ai retrouvé un travail.
Oui.
Mais il y a beaucoup d'heures supplémentaires qui sont comptées dans la paye.
Oui, oui, oui.
Et donc, à chaque fois, on se pose les questions, qu'est-ce que le restant à vivre? Comment peuvent-ils calculer pour voir un petit peu combien soit on pourrait rembourser, soit on ne peut pas rembourser, soit passer par un effacement partiel ou total des dettes, comment ça se génère, combien de temps va rester interdit en Banque de France, comment ça se déroule? On a énormément de mal, ou alors peu de communication par rapport à tous ces éléments.
Alors c'est vrai que c'est un peu obscur, hein, mais il faut savoir qu'il y a un barème national qui a été mis en place avec la loi Lagarde, justement pour calculer les forfaits et prendre en compte des dépenses effectives, hein, pour calculer le reste à vivre et la capacité de remboursement. Donc ça, c'est vrai que les commissions de surendettement ne communiquent pas spécialement dessus. En principe, il doit y avoir un règlement intérieur qui doit reprendre ces éléments et qui doit être accessible par tous. Pour l'instant, c'est pas évident d'y avoir accès. Mais en tous les cas, à Crésus, nous connaissons les pratiques des commissions. Nous savons évaluer à quelques euros près, je dirais, la capacité que retiendrait la commission, tout en sachant qu'il y a des variantes, hein, et que chaque situation est différente, et que la commission peut prendre en compte des dépenses particulières, notamment s'il y a des frais de santé récurrents, ça peut être pris en compte, et ça réduit d'autant, je dirais, la capacité de remboursement. Vous voyez ? Donc c'est vraiment au cas par cas. Le plus simple, c'est effectivement de vous rendre dans un Crésus de proximité pour avoir un aperçu sur ces éléments-là. Hein. Alors je crois que pour l'instant, effectivement, bon, là c'est un peu le stand-by. Dans quelques semaines, vous allez avoir un courrier de la commission qui va demander de faire le point sur votre situation. Et ensuite, effectivement, n'hésitez pas à recontacter Crésus, hein, qui pourra vous apporter des éléments de précision sur les étapes suivantes.
Fait,
je crois que c'est assez important. Hein.
Mais je voulais juste dire une chose à ceux qui
tomberaient
dans le surendettement et tous ceux qui auraient, je dirais, honte en fait de tomber dans le surendettement. Le surendettement, c'est pas une faute non plus à chacun, parce que certaines personnes, je dirais aisées, peuvent dire voilà, s'il a voulu contracter des crédits, c'est qu'il l'a cherché aussi.
Oui.
En gros, il le mérite. Il mérite ce qui lui arrive aujourd'hui.
Oui.
Or, c'est faux. Il ne faut vraiment pas se dire ça. Il faut vraiment se dire, de toute façon, à chaque fois, il y a eu, dans 99% des cas, il y a eu une situation qui a fait que ça a affecté, qu'on a eu besoin d'argent à un moment donné. Je pense que maintenant, la majorité des personnes passent par ces problèmes, puisqu'on l'a entendu aussi, ça arrive par des professionnels.
Bien sûr.
Ça arrive bien à la France par elle-même d'être aussi surendettée, voire à d'autres pays.
Oui.
Hein, donc, ce n'est pas spécifique aux particuliers. particulier, c'est vraiment un groupe, c'est vraiment une généralité.
C'est une pratique, oui.
Donc il faut vraiment, vraiment sortir la tête de l'eau. On en a écouté à la radio aussi, à la télé, des gens qui se suicidaient parce qu'ils avaient énormément de dettes.
Bien sûr.
Je trouve ça malheureux. Ouais. Alors, c'est, voilà. Mais on a une fragilité qui s'installe pendant un certain moment parce qu'on a beaucoup de créanciers qui harcèlent. C'est vraiment du mot harcelé quand on reçoit des lettres, je dirais quasiment toutes les deux jours, en nous disant...
on doit batailler sur tous les fronts, hein, c'est ça.
Voilà.
On n'a pas de répit et c'est vrai que la pression est très forte. Hein.
Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment sortir la tête de l'eau, essayer d'en parler, parce que moi j'en ai pas parlé, ça ronge un peu, on ne sait pas comment on peut s'en sortir, et il ne faut pas hésiter à en parler, c'est pas une tare, hein, c'est malheureusement c'est la vie actuelle, et bon, il y a des émissions et des associations qui sont là justement pour aider, il faut vraiment aller de l'avant pour aller les voir.
Oui, merci beaucoup Mickaël pour ces mots de la fin. Donc, restons dignes, hein, en toutes circonstances. Hein.
Tout à fait, oui.
Accrochons-nous et puis surtout, ne pas s'isoler. Hein, je crois que c'est important. Ouais, merci beaucoup, Mickaël. Merci.
De rien. Au revoir.
Au revoir.
Crésus, la radio qui vous aide.